Bonjour, vous êtes sur CFM Radio pour l'émission Regard sur l'œuvre avec Jean-Luc et notre invité d'aujourd'hui, Luc Rigal.
Bonjour.
Donc Luc, je le connais depuis peu, mais en fait c'est le plus lotois des Parisiens que je connaisse. Pour commencer tout de suite, Luc, dresse-nous un bref portrait de toi et décris-nous un peu la famille de style, même si elle est très particulière, à laquelle tu appartiens, on va
ouais,
dire.
Ouais, ouais. Alors, je suis né à Cahors, j'ai une activité artistique ici, publique, je dirais, à partir de 16 ans à peu près, où j'ai commencé à exposer avec un groupe qui était dirigé par Jean Moreil, de jeunes autour de lui. On était à peu près une dizaine et on a commencé à exposer dans la galerie municipale, qui était une grande galerie à l'époque, qui se trouvait en plein centre de Cahors. Et on a eu comme ça une activité de groupe artistique un peu avant-gardiste ensemble pendant plusieurs années. En même temps, pour moi, c'était une façon aussi d'expérimentation artistique, orientée un peu dans l'esprit de l'éducation de Francisco Ferrer, un peu l'anarchiste, si tu veux, c'est-à-dire une façon d'être un peu autonomisé par rapport à l'art et un peu dans la libération des formes, quoi. Donc ça, c'était mes premières ouvertures sur la création à Cahors. En même temps, je rencontrais des artistes qui étaient assez connus et qui, à l'époque, avaient une activité aussi très expansive dans Cahors, en faisant des expositions dans des lieux désaffectés, des choses comme ça, des expositions en pleine nature. Donc ça, c'est des gens que j'ai rencontrés. Des fois, j'étais gosse, hein, c'est-à-dire que j'avais même... c'était même avant 16 ans, c'était à peu près à 12 ans, quoi. Et donc, mon initiation, moi, dans la création artistique, ici, ça a été dans un esprit très particulier, c'est-à-dire en marge de l'éducation normale, de l'éducation artistique normale, et en marge même de la présentation en galerie normale, c'est-à-dire en présentation de galerie municipale, et dans un esprit artistique marginal déjà. Enfin, voilà. Alors ensuite, j'ai fait un passage aux Beaux-Arts qui a duré à peu près 15 jours, parce que j'ai trouvé ça très scolaire, et en philo aussi. Et puis ensuite... J'ai habité à Paris pendant pas mal de temps, mais en revenant à Cahors, où j'ai tenu une galerie alternative avec Jean Moreil, toujours, qui présentait des œuvres à la fois sculpturales et puis à la fois picturales. On invitait des artistes, on faisait des choses ensemble ou séparément, enfin voilà. Ça a duré pas mal d'années, et puis... Et puis, à côté de ça, moi, j'ai continué ma recherche personnelle. Alors, ma recherche personnelle au niveau artistique, on pourrait la définir par le fait que c'est une peinture gestuelle, on pourrait dire. Une peinture gestuelle, c'est-à-dire qui est basée sur la dynamique corporelle et la sensation de l'espace de la toile comme un espace ouvert. Alors ça a été théorisé ça par un Américain des années 50 qui s'appelait Harold Rosenberg, qui parlait de la toile comme une arène et qui a défini ce qu'on appelait l'action painting. Alors les gens connaissent plus ou moins, mais l'action painting, c'est pas une coquetterie, c'est-à-dire c'est pas l'idée de faire une peinture gestuelle pour faire la démonstration qu'on est dynamique. Non, c'est le moyen d'investigation d'une perspective métamorphique, c'est-à-dire une possibilité d'occuper un espace qui offre énormément de possibilités à l'expression, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai senti assez tôt, parce que j'étais déjà, quand j'étais gosse ou ado, enfin ici, j'étais déjà informé de ce qu'était la peinture gestuelle. C'est même américaine, c'est même ce qui m'a beaucoup motivé pour le considérer comme un métier assez jeune. Et ça, du buffet, d'autres choses, mais enfin, en principe, beaucoup ça. Et voilà, et récemment, depuis à peu près... Il y a eu plusieurs périodes dans ce que j'ai fait. Et récemment, j'ai développé ce que je fais sur des toiles composées qui sont sans support châssis, c'est-à-dire qui se posent directement au mur et qui sont composées de plusieurs façons de traitement à la fois de la surface, de l'imprégnation, de la figure, de l'abstraction, etc. Alors c'est pas un fourre-tout, c'est une manière d'inclure le spectateur dans une espèce de présentation où il entre dans l'espace de la représentation de la peinture comme on rentre dans un espace de fresque, comme on rentre par exemple dans un espace consacré. Alors le plus net c'est les églises par exemple, où vous avez comme l'église assise de Giotto, vous avez un espace mystique sur le plafond et un espace plus proche au niveau du rez-de-chaussée, de la perspective des gens. Donc en fait, ce qui m'intéresse, moi, surtout depuis que j'ai développé cette forme de peinture, sans châssis, et qui prend l'allure un peu d'une fresque sur un mur, c'est d'offrir un regard qui pose une question par rapport au regard qu'on peut avoir habituellement et sur la peinture et sur le monde, quoi. Voilà.
Eh bien, écoute, j'ai découvert plein de choses en t'écoutant.
Ouais, mais tu avais vu déjà ce que je faisais.
Justement, j'irai presque un peu plus loin, au risque de jouer un peu les provocateurs. Je pense que ta peinture, non pas picturalement, mais dans l'esprit, ressemble à celle de Dubuffet. Un peu anticonformiste et un peu anticulture asphyxiante.
Alors, oui, alors, c'est marrant, c'est parce que... Le rapport à Dubuffet, je le connaissais depuis jeune, moi, hein, parce que... Quand j'étais jeune à Cahors, c'était très facile pour ma génération d'être au courant de tout ce qui se faisait, quoi. Et du côté de l'Espagne, parce que l'influence espagnole sur le Lot était quand même très importante, étant donné l'immigration, étant donné les relations culturelles. Et puis aussi parce que les publications d'artistes étaient très accessibles. Moi, j'ai lu Dubuffet, par exemple, L'homme du commun à l'ouvrage. Je me souviens, je devais avoir à peu près 13 ans. Je l'ai trouvé sur un présentoir de la librairie du coin, quoi. Comme je pouvais trouver La pratique de l'art de ta pièce exactement sur un présentoir de la même chose. Ce qui aujourd'hui est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, c'est tout. Enfin. Donc, Dubuffet, je le connaissais et ça projetait dans l'idée d'une distance aussi par rapport au marché de l'art, forcément, parce que c'était quand même très, très, très présent chez lui, ça. Alors après, à partir des années 2000 à peu près, j'ai eu un développement de ma figuration qui s'est approché de celle du Dubuffet que j'aimais beaucoup parce que c'était une figuration populaire, c'est-à-dire qui définissait ses propres critères morphologiques et donc offrait une représentation générale qui était cohérente et en même temps ouverte au regard de n'importe qui, c'est-à-dire qui était accessible à n'importe qui. Mais moi, ça venait naturellement, parce que moi, j'avais fait de la bande dessinée quand j'étais jeune, donc j'avais développé une propre figuration personnelle, grotesque aussi, hein, caricaturale. Mais plus ça allait, et plus il y avait des accointances. Au point qu'à un moment donné, j'ai même fait sur un catalogue un texte fictif avec Dubuffet, où je reprenais des tas de points de vue qu'il avait développés dans des ouvrages. Pour parler justement de ce rapport à la figuration, quoi.
C'était plus qu'un texte, c'était un entretien fictif avec Dubuffet. Il y a un vrai échange de points de vue dans
le texte. Oui, je me suis amusé. Et je pense que lui, se serait bien amusé. Par contre, la Fondation du Buffet m'a fait un problème avec ça, parce qu'il y avait des personnages qui faisaient partie du comité, que ça a choqué, parce que je disais « tu as du Buffet », alors il fallait pas dire « tu as du Buffet ».
Vous êtes toujours sur CFM Radio pour Regard d'œuvre avec Jean-Luc et notre invité Luc Rigal. Et maintenant, une pause musicale.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot. CFM Cahors, CFM, l'esprit rock.
Rebonjour, vous êtes toujours sur CFM Radio avec Jean-Luc pour Regard d'œuvre, notre invité, toujours Luc Rigal. Luc, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit à propos de cette approche de la figuration et ce constat avec Dubuffet. J'ai cru comprendre que tu as été ouvrier dans ta vie aussi.
Oui, oui, oui.
Quel est le rapport au travail et avec l'art et ta perception de l'art ?
Elle est liée aussi avec cette figuration parce que alors c'est une figuration que je dénomme moi tragiloufoque. C'est un style que j'appelle tragiloufoque pour souligner le caractère à la fois tragique et à la fois dérisoire un peu hein, et critique qui peut contenir. Au moment où je l'ai développé, c'était une manière de traduire le métier que j'avais à l'époque, qui était opérateur. Alors opérateur, administrativement, ça veut dire ouvrier. Donc j'étais opérateur projectionniste dans le cinéma, ce qui me permettait de travailler le soir et de faire ma peinture l'après-midi, avec la lumière. Et donc j'ai fait ça pendant des dizaines d'années. Hein. Ça a été mon métier pour survivre et pouvoir peindre de manière en toute indépendance. Mais j'ai eu cette expérience du milieu ouvrier et du milieu du travail. Et donc j'ai fait toute une série que tu dois connaître, que tu connais, qui a précédé celle qui est très en couleur que je fais actuellement, mais qui était au contraire assez dramatique, assez noire et assez avec des fonds un peu en lacis à la Pollock, enfin. Et cette peinture-là était complètement investie par le fait que je travaillais comme ouvrier et comme un travailleur de base, quoi. Hein. Et donc qui traduisait un peu la répétition, l'uniformisation, l'anonymisation de l'individu au travail, la dureté, etc. Et donc, je faisais des personnages sur des toiles en général carrées, de grand format, en structure pyramidale, pour rappeler la hiérarchie. D'ailleurs, le titre de la série s'appelait « De l'ordre de la hiérarchie », c'était un titre ironique, évidemment. Et en développant donc une figuration qui était... comme je disais tout à l'heure, avec une morphologie caricaturale et en même temps, les personnages étaient assez semblables tous, avec des nuances très particulières, très très suggérées, mais avec quand même une unité, si tu veux, voilà. Alors, en général, comme l'esthétique dans laquelle on baigne est plutôt une esthétique publicitaire, les gens ne comprenaient pas et pensaient que je pouvais avoir, par exemple, un personnage, que c'était moi. C'était pas du tout. Je montrais une façon, je montrais ce que sont les gens, quoi. C'est-à-dire la manière dont je les voyais astreints au travail, à la répétition, au caractère implacable, si tu veux, que recèle le monde du travail. Alors par contre, là où ce que je développais en priorité, c'était l'expression des visages, par exemple. Et ça a toujours été quelque chose qui a été pour moi très primordial, c'est-à-dire que je commençais toujours, et je commence toujours du reste, par faire l'expression des visages pour accrocher le regard de l'observateur et être proche de lui. Et s'il n'y a pas quelque chose dans le visage de mes personnages qui est interrogatif, qui peut avoir plusieurs sens, mais qui en même temps peut parler de manière très proche, comme dire l'angoisse, dire le désarroi, dire la gentillesse, dire enfin des choses comme ça, quoi. Ou même plusieurs expressions en même temps, eh bien à ce moment-là, je ne poursuit pas. Il faut qu'il y ait à l'intérieur de la peinture quelque chose qui soit très proche. Ça, c'était un principe qui était présent chez Dubuffet, par exemple. Tu vois.
Tu viens de parler de l'aspect, j'allais dire, philosophique, presque, de tes toiles. Tu vois, l'aspect intellectuel, même si ce n'est pas le mot exact. Pour préciser pour les auditeurs, comment est-ce que tu commences une œuvre après la réflexion techniquement ? Quelle est sa genèse ? Quel est le premier geste qui te vient quand tu construis une toile ?
Je jette. Je commence par jeter des trucs. J'ai pas de... Alors c'est très curieux parce que... je dessine à côté, etc. Mais une toile, elle est improvisée. C'est-à-dire, elle est... Je pense mes formes, je pense mon espace. Je fais un espace qui est semi-profond, je dirais. L'espace de Dubuffet, lui, est très plat. l'espace des expressionnistes abstraits américains est semi-profond, comme moi. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir un espace semi-profond, c'est-à-dire... Et donc, ça se travaille, ça se prévoit. Et puis, ce que j'ai repris à Dubuffet, par exemple, c'est le polyfocal, c'est-à-dire l'idée que sur une même surface, il peut y avoir plusieurs focalités, plusieurs un éloignement ou un rapprochement, ce qui démultiplie la circulation du regard sur la toile. Mais en général, je commence par chercher des figures, c'est-à-dire je commence par jeter le rouge prédomine, moi, dans ce que je fais. Donc en fait, je commence par investir la surface blanche qui va être celle où va se passer l'essentiel de la figuration par des traitements de surface différenciés, des choses comme ça. Et je vais en dégager des figures qui vont plus ou moins s'entremêler, qui vont se détacher ou coïncider avec le fond. Et à côté de ça, je vais travailler ensuite, selon ce que ça va me suggérer, un rapport à la surface de la peinture qui va être très imprégnée, très sensuelle, au contraire très diffusée, très en couleur, etc. Et je fais coïncider les deux. Voilà. Et ça introduit... Alors, ça introduit quelque chose qui ressemble un peu au punctum de Barthes, c'est-à-dire un point étrange qui est inabordable, qu'on ne peut pas définir, qui en même temps attire l'œil, et en même temps c'est un gouffre, c'est-à-dire on ne peut pas savoir ce que ça cache. Mais il y a une question qui se pose d'emblée, parce que ce sont des traitements différents, mais en même temps ils ont une ressemblance quelque part, mais faire le lien, ça demande un effort, quoi. Ouais, ça c'est vrai.
Parfait. Toujours pour continuer dans l'explication et pour situer un peu plus visuellement ton travail, dans quelles conditions matérielles travailles-tu ? Est-ce que tu as une pièce à part ? Est-ce que tu as une organisation spécifique, un mode de travail spécifique ?
Alors oui, en fait, je travaille toujours dans des grands espaces. Il me faut des grands ateliers. Ça a été toujours mon problème, ça, d'ailleurs, parce que trouver un grand atelier à Paris comme ailleurs, c'est compliqué. Donc moi, il me faut travailler au sol. Il me faut à peu près 6 mètres carrés de largeur. Je tourne autour de la toile. Il me faut la peinture gestuelle, comme ça, quand elle est pratiquée surtout au sol, ça inclut tout l'espace environnant, non seulement son propre corps, mais tout l'espace environnant dans la peinture. Donc on est constamment en activité. Un jour, il y a un type qui est venu filmer comme ça, et puis il était soufflé derrière moi, parce qu'il courait derrière moi pour essayer de filmer ce que je faisais. Et en fait, voilà, il était un peu essoufflé. Alors des fois, je lui disais, pousse-toi un peu, parce que je vais envoyer de la peinture, là. Donc pour pas qu'il soit éclaboussé, tu vois, il fallait qu'il soit un peu... il fallait qu'il se gare aussi, ou qu'il souffle. Et donc voilà, moi, je travaille comme ça. Ouais. Je travaille donc en gestualité, même avec des moyens techniques, alors qu'ils vont t'intéresser, toi, parce que je sais que tu aimes beaucoup la course automobile, mais à partir d'un moment, j'ai découvert une technique, enfin j'ai découvert, c'était déjà employé par Pollock, hein, mais c'était une technique qui consiste à utiliser quelque chose comme une pipette, enfin comme une burette à huile, tu vois, et qui projette un trait continu que tu peux mener indéfiniment, mais très rapide. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir une technique où la rapidité d'exécution allait à la limite de la conscience que je pouvais en avoir. Ça, c'est un truc qui a été extraordinaire dans ce que j'ai pu travailler. C'est-à-dire que quand je fais une figure, elle est extrêmement très 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 rapide. Très rapide au point que des fois, je suis le premier observateur de ce que mon inconscient a réalisé. Et en même temps, la technique que j'utilise peut me permettre de l'effacer aussitôt. C'est-à-dire que je traite la surface de la toile de telle manière que je peux la racler et tout supprimer d'un coup. Voilà.
Alors, tu viens de parler de conscience et d'inconscience même dans ton travail. Dans quel état mental te trouves-tu quand tu travailles ? Par quoi es-tu habité, en fait, au tréfonds de toi-même ?
Ouais. Alors, en fait, je commence par réaliser ma substance picturale. Donc, je suis assis en tailleur, au milieu de l'atelier, comme un chinois, et je fais ma tambouille, c'est-à-dire que je la rends liquide, et je fais des pots de peinture liquide, et ça me prend un certain temps. Alors, je touille avec le manche de mon pinceau, comme ça, et puis ça peut durer des heures, hein, parce que si je veux faire plusieurs pots, ça me prend un bon moment. Et une fois que j'ai la texture, alors des fois, je peux avoir même pour une même couleur deux formes de texture, voilà. Et une fois que je suis arrivé à ça, là je peux me mettre à peindre. Et en général, au moment où je commence à faire ça, il y a une espèce d'alchimie mystérieuse et complètement incroyable qui fait qu'il y a un désir qui monte comme ça, une espèce d'urgence. Et au bout d'un certain temps, très vite, je brûle de me mettre sur la toile. Donc, et alors après, évidemment, là, ça se fait dans une espèce de fébrilité et d'urgence, oui.
Eh bien, après la petite pause, nous reviendrons avec une question. J'aimerais savoir quel est ton travail en cours qui exprime la fébrilité dont tu viens de parler. Vous êtes toujours sur Radio 3-4. Vous êtes toujours sur CFM Radio. Pour l'émission Regard sur l'œuvre avec Jean-Luc et notre invité Luc Rigal.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
Ce paysage qui défie comme le fil de ma vie quand la couleur de mes larmes se ternit. Tu donnes un sens à mes jours sans soleil, à mes nuits, mes nuits sans sommeil. Tu as changé. Thank you.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Vous êtes de retour sur CFM Radio pour l'émission Regard sur l'œuvre avec Jean-Luc et notre invité, Luc Rigal. Luc, donc, je résume ma dernière question. Quel est ton dernier travail en cours ? Sur quoi travailles-tu actuellement ? Je ne te parle pas d'une série, mais bien d'une œuvre ou de quelque chose de précis.
Alors, je ne travaille pas en ce moment parce que je suis en déménagement et donc je n'ai pas d'atelier à disposition. Alors, évidemment, j'ai un travail de dessin à côté, je travaille de critique d'art aussi par rapport à des artistes, souvent dans le Lot d'ailleurs. Donc j'ai plusieurs choses. Mais en fait, on pense toujours à la peinture, quoi. Enfin, moi, je pense toujours à la peinture. Et donc, j'y pense, même si j'y suis pas dessus, j'y pense par le dessin, parce que les dessins me permettent de d'étendre la possibilité expressive que je peux avoir sur les peintures par la recherche que j'obtiens par le dessin. Ça, c'est très important. Ce qu'il faudrait dire, c'est... Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la peinture, et je le vois en écrivant aussi pour les artistes, c'est que il n'y a pas l'équivalent dans aucune expression d'un art qui soit aussi cérébral et aussi physique à la fois. C'est la seule forme de création qui apporte ça. Donc c'est assez extraordinaire dans le sens où on peut aller très loin dans la compréhension mentale, dans l'élaboration mentale, et très loin dans le physique. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément attiré dès le début dans la peinture et qui me monopolise toujours beaucoup. L'important pour moi, c'est de mener les moyens de la peinture au point où ça va interroger la création dans son époque. Et mon propos, mon ambition, moi, aujourd'hui, c'est d'interroger la création picturale en rapport avec l'évolution sociale et civilisationnelle que l'on connaît, quoi. Voilà.
Eh bien, pour poursuivre cette dernière partie de notre entretien, nous allons passer à un petit questionnaire à l'après-vert.
Ah.
Donc, ma première question, ça, c'est, pourrais-tu choisir une de tes œuvres en particulier et qui a, justement, particulièrement marqué ta vie et nous dire pourquoi ?
Une œuvre en particulier ? Ah, oui. Oui, mais enfin, oui, mais elle a, oui, il y en a une qui me vient comme ça, mais c'est pas, elle n'est pas significative. Il y a... Dubuffet, il disait qu'il y avait, dans une carrière d'un artiste, il y avait deux dizaines d'œuvres principales. C'est vrai, il n'y a pas énorme. Enfin, les grands moments, c'est un peu des grands moments de grâce, hein, où on atteint quelque chose, et puis, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais il y a une œuvre qui m'a interrogé moi-même au moment où je l'ai faite, parce que j'écoute pas mal de free jazz, moi, quand je travaille. Ou alors j'écoute rien, mais en général, c'est ce genre de musique que j'écoute. Et un jour, j'ai fait une peinture assez abstraite, du reste, rouge, d'ailleurs, avant que je travaille vraiment sur le rouge comme je le fais maintenant, mais ça a toujours été une couleur dominante chez moi. Mais à une époque, j'ai fait cette peinture-là, que j'ai rattachée au free jazz, et qui était très rythmique, et qui est très... qui est une suite de gestes rythmés et en même temps en continuité sur une surface blanche, en fait. Il faut dire que moi, j'ai été aussi impressionné par le sens du geste de la peinture japonaise. Et j'ai été influencé par la technique du pinceau qui a été développée dans des traités de peinture chinois, par exemple, où on développe toutes les manières de poser le pinceau, pour lui donner le maximum d'expressivité possible. Et moi, je l'ai enrichi après. Alors, comme je disais, avec la pipette, je l'ai enrichi avec des moyens de pinceaux, de formes de pinceaux qui sont un peu plastifiés ou des raclettes ou des choses comme ça pour traiter la surface différemment, de manière diversifiée. Et en fait, cette petite peinture, enfin petite, disons moyenne, parce que je fais des grands formats en général, ça fait du 2 mètres sur 3, mais là c'était moyen. Et cette peinture-là était assez représentative un peu de ma méthode de travail de manière générale, c'est-à-dire gestuelle, la plus expressive possible, variée, évocatrice, voilà.
Très bien. Question suivante, hein, on enchaîne immédiatement.
Oui, oui.
Y a-t-il des personnes, j'allais dire, ou des personnages, puisque tu nous as parlé tout à l'heure de ton activité dans la BD,
oui,
qui ont marqué ta vie d'artiste? Ça peut être une personne ou plusieurs, hein, qu'ils soient proches ou pas. Hein.
Des personnes qui ont marqué ma vie d'artiste. J'aime bien tes questions, mais c'est pas. Ouais, mais c'est bien parce que justement, ça pose.
Ce sont des questions.
Oui, oui, il faut. Oui, 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 oui. Alors, il y a quand même quelque chose qui a quand même pas mal compté chez moi, et ça, il faut que je lui rende hommage, c'est Jean Moreille. C'est-à-dire le fait qu'à 16 ans, je rencontre quelqu'un qui, dans une petite ville comme Cahors, a l'idée un peu saugrenue de vouloir faire un groupe de création artistique, d'artistes, avec des jeunes. Et donc ça a été énormément libérateur pour moi parce que Jean Moreille fait encore toujours un travail qui est à la limite du fluxus, quoi, qui est très, très en porte-à-faux et très interrogatif par rapport à la création artistique anti-académique, évidemment. Et donc, ça m'a poussé à prendre une distance par rapport à l'académisation de la création et par rapport aux normes qui sont assez écrasantes, quand même, il faut bien le dire, quoi, de la peinture habituelle, hein, avec des codes très précis, d'autant plus d'ailleurs que la modernité américaine, il y a deux modernités en gros, hein, il y a une modernité du début de siècle qui est européenne, et il y a une modernité de deuxième moitié du XXe siècle qui est quand même très déterminée par les Américains, et celle-là, elle n'est pas passée, hein, comme en poésie d'ailleurs, c'est-à-dire que ces formes-là, cette modernité-là, n'est pas populaire, hein, elle n'est pas passée dans le... Quand je parle de gestualité, on croit toujours que je suis peintre gestuel parce que je veux en foutre plein la vue, absolument pas. C'est le moyen nécessaire pour moi, c'est pas une coquetterie, c'est le moyen nécessaire pour arriver à exprimer les choses comme je le voudrais, ou le plus intensément que je voudrais. Si vous faites une caricature, vous n'allez pas faire... Il faut que ça soit jeté, il faut que ça soit fait dans l'instant et en même temps très précis, qu'on sente vraiment son sujet, qu'on soit vraiment proche de ce qu'on... Et donc moi je reprends ça, et la peinture gestuelle c'est ce qui est le plus approprié pour le mener jusqu'au bout, ça.
Okay. Donc nous avons bien survolé tout ton travail, ton approche de ton travail.
Ouais.
Et je voudrais passer maintenant... Quelques questions un peu plus personnelles pour essayer de situer qui tu es. Question assez traditionnelle. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde où tu te sens vraiment chez toi?
Ah oui, oui, oui. Le Lot, oui. Ah oui, oui. Comme disait Breton, je ne me sentirai jamais ailleurs, mieux que là, quoi. Ouais. Alors en plus, il y a quelque chose sur lequel je travaille d'ailleurs, comme critique d'art, c'est qu'il y a toute une particularité, alors là il faudrait faire une autre émission là-dessus, mais il y a toute une particularité de la création artistique dans le Lot, carcinoise, avec des artistes que moi j'appelle les carciens, c'est-à-dire c'est un condensier de carstique et de cadurcien, c'est-à-dire des artistes qui ont un rapport très particulier à la création artistique, qui est à la fois primitive, très spontanée, et qui reprend qui interprète à la manière actuelle tout un passé culturel très lié au Quercy, c'est-à-dire l'art paléolithique, l'art roman, une modernité rurale qui a été très imposée par des artistes comme Bissière, Lursa, et Zetkin, chacun dans leur discipline, et qui ont actualisé ça et modernisé ça dans le monde qui a suivi, c'est-à-dire à partir des années 70. Et on a toujours une espèce de cette culture-là, très, très particulière au Lot, qui est liée à son environnement naturel et à son histoire, qui donne un esprit particulier à la création ici. Mais comme le monde évolue, que l'esthétique est devenue de plus en plus une esthétique, comme je disais, publicitaire, et qui est polyvalente, et qui met en danger même la création artistique, qui voudrait être autonome et spécifique à chaque discipline, c'est difficile à défendre. Mais c'est quand même quelque chose qui est pour moi à colle à la création artistique ici, quoi.
Oui, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que quand André Breton a découvert le Lot, il a dit « J'ai cessé de me désirer ailleurs ».
Exactement, c'est ça. C'est à quoi je faisais allusion, oui.
Étant moi-même un lotois d'adoption depuis 2 ans, je ne peux que souscrire à ce que tu as dit. Quand on arrive dans le Lot, on arrive dans un autre monde, un mini-paradis.
Ah, mais c'est génial ici.
Et c'est vrai qu'il y a un monde de création que beaucoup de gens ignorent et ne peuvent pas trouver ailleurs. Vous êtes toujours sur CFM Radio pour l'émission Regard d'art avec Jean-Luc et notre invité, toujours Luc Rigal.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Vous êtes toujours sur CFM Radio pour l'émission Regard sur l'art avec Jean, sur l'œuvre, pardon, avec Jean-Luc et notre invité Luc Rigal. Donc pour continuer et poursuivre cet inventaire à l'après-vert, une question.
Oui.
Est-ce qu'il y a une question particulière qui t'énerve ?
Est-ce qu'il y a une question particulière qui m'énerve ? Alors, comme tu fais toujours les choses très bien et que tu m'avais préparé ce genre de petites questions, j'avais noté quelque part, parce que c'est pas évident de répondre à ça. Parce que moi, je suis plutôt disposé à trouver des solutions à tout. La question qui m'énerve, tu m'avais dit... Ah oui, la question qui m'énerve, donc j'ai trouvé, oui. C'est pourquoi peins-tu ? Ça, c'est vraiment ça, alors. Pourquoi peins-tu ? Est-ce que vous avez une raison pour peindre ? C'est sûr, ça con, comme, ça c'est très con comme truc. Hein. Parce que, d'abord, on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Mm. C'est difficile, soi-même, de savoir pourquoi on fait comme on fait. Parce que ça correspond à un mystère chez soi. Pourquoi est-ce que je fais des caricatures ? Je ne le saurais jamais. C'est mon tempérament, c'est voilà. Et donc ça, je ne peux pas savoir. Par contre, c'est plus facile pour moi de parler des autres, parce que là, j'ai un regard plus éloigné. Quoi.
Ouais. Bon, tu vois que je souris grandement, parce qu'en fait, ta réponse me fait penser à une... Tu as parlé tout à l'heure de mon autre vie dans le sport automobile.
Oui.
Si tu savais le nombre de fois où on m'a demandé « Mais tu as un travail sérieux à côté ?»
Voilà.
Ben non, là c'était juste un travail accessoire qui me prenait 7 jours par semaine, 10 heures par jour.
Et ouais.
Ce sont des questions sans réponse en plus.
Oui, oui. Oui.
C'est le plus frustrant dans l'histoire, c'est que quand quelqu'un te demande pourquoi est-ce que tu peins, ben déjà, on ne peut pas lui répondre parce qu'il n'a pas compris l'essentiel de ta motivation et de ton intérêt.
Non, et puis bon, je pense que moi j'aime bien aussi la course automobile. Hein. Je suis très loin d'être un spécialiste comme toi, je vois ça de très loin. Mais je trouve ça fabuleux, il y a une espèce de sentiment d'intensité, de recherche d'intensité, de l'excès qui est formidable. Quoi. C'est un peu ce que je recherche aussi moi dans ma peinture. Hein.
Donc, ouais, je pense qu'on et ça peut pour faire le faire,
il y a des choses, c'est difficile à communiquer avec d'autres. Hein, ça, hein, ouais. C'est,
bon. Et à l'opposé de ça, quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose ?
Pourquoi le dessin est-il à l'origine de la pensée humaine ? Parce que le dessin est à l'origine de la pensée humaine. Ça, c'était le point de vue de Vinci. C'était le point de vue de Vasari aussi, qui a été un critique d'art très important pour la théorie de la Renaissance et pour la théorie de l'art en général. C'est-à-dire que le dessin est ce qui permet... ce qui permet à la pensée de se formaliser, et ne serait-ce que parce qu'il est à l'origine de l'écriture, et il est à l'origine même de l'investigation du corps et de l'esprit dans l'espace. Donc le dessin, c'est fondamental pour l'activité de l'humain.
En fait, bon, on va faire court, on va parler de la période préhistorique.
Oui.
Le langage pictural est arrivé bien avant le langage vocal. C'est le dessin est la première forme d'expression et de communication entre les êtres vivants.
Alors, la première trace scripturale sur un galet, je crois que c'est, et c'est un moment où l'animal devient homme, hein, c'est avant Homo sapiens même. Hein. Mmh. Ce sont des rythmes de petits traits fébrilement posés comme ça. Et après, au moment où la figuration apparaît, où la représentation sur mur apparaît, c'est-à-dire à peu près on date ça à peu près à 50 000 ans avant nous, c'est à peu près le moment où le langage apparaît aussi. Et alors, on pense que le langage vient en même temps, mais en même temps sous influence de ce qui a été dessiné. C'est-à-dire, il y a même des gens qui disent que le langage aurait été trouvé pour expliquer le dessin qui était sur les parois.
Ben, on va continuer dans le domaine de la culture.
Oui.
Tu es quelqu'un qui lit beaucoup.
Je lis, oui. Enfin, oui. Mais je lis tout, je lis la presse aussi.
Oui, mais tu lis beaucoup.
Oui, enfin bon.
Si tu as été un livre... Tu serais lequel ? Je parle pas de ton livre préféré. Si vraiment toi
alors,
tu étais un livre.
Un livre que je trouve intéressant parce que il est déterminant par rapport à la culture européenne. Il est d'une ambition et d'une profondeur extra, c'est la Divine Comédie de Dante. Voilà.
Ouais. Il est vrai que Dante est quelqu'un qui avait tout compris de la relation au spirituel, de la relation entre les hommes et du fonctionnement du mental des hommes.
Ouais.
Moi, j'étais aussi bluffé par la Divine Comédie. On en parle beaucoup comme ça, presque comme si c'était un objet marketing, mais c'est vraiment quelque chose de très, très humain et de très profond.
C'est magnifique. Ouais.
Ouais.
Et petite note, les Cadurciens sont indiqués dans la Divine Comédie, tu sais ça?
Non, je ne savais pas.
Alors, ils les appellent les Cahorsins, et à l'époque, c'était des banquiers, et ils les mettent dans l'enfer quand même. Hein.
Oui.
Mais parce que le Cahors s'est formé au Moyen-Âge grâce aux banquiers. Qui permettait l'usure, alors que c'était interdit en règle générale par la religion. Mais en fait, ça a contribué beaucoup au développement de la ville.
Ouais, comme diraient nos amis britanniques, personne n'est parfait.
Voilà, voilà.
On va essayer de te découvrir un peu plus, après l'aspect culture, l'aspect gourmet, parce que dans le Lot, quand même, il y a une tradition du bien manger. Quel est le plat que tu préfères? Et si tu étais un plat toi-même, lequel serais-tu?
Ah oui, ça, tu me l'avais. Ça, c'est drôle. Tu me l'avais trouvé aussi, ça. Tu me l'avais préparé. Il m'a fallu quand même un peu de temps pour trouver, tu vois. Parce que j'adore qu'on mange ici. Mais il y a un plat que j'ai découvert à Nantes, figure-toi, dans un restaurant du goût culinaire moyenâgeux. Ils ne font que des plats moyenâgeux. Et ça s'appelle le soufflet aux escargots. Alors, le soufflet aux escargots, c'est très mystérieux, c'est très marrant, parce que ça fait comme un soufflet, comme ça, enfin, comme une espèce de on dirait presque une brioche, tu vois. Puis alors, dedans, c'est creux, et tu as une espèce de sauce avec des escargots, et c'est très mystérieux, c'est extra, c'est plein de mystères, de surprises, ouais. Et puis de différences de textures aussi, tu vois.
Ça, c'est ce que tu as aimé. Et si tu étais la représentation, si tu te représentais toi en un plat, ce serait lequel?
Si j'étais moi un plat?
Oui.
Oh là là.
La mic?
Non, je serais pas un plat mou. Je suis gentil, moi, je suis un type gentil en général. Plutôt doux, violent, mais doux. Donc, essayer de trouver une équivalence avec ça au niveau. Un cabécou, tiens, voilà. Un cabécou, c'est formidablement onctueux, et en même temps, ça sent le cos, quoi, tu vois.
Ça fond sous la langue, mais ça a un goût fort en bouche.
Ouais, ça vient de la pierre.
Ouais. On va repasser sur le côté un peu plus cérébral. Y a-t-il une maxime ou un proverbe qui a profondément marqué ta vie ou qui t'accompagne durant ta vie?
Maxime, non, j'ai pas de maxime. Il y a quelque chose qui symboliquement pourrait me ressembler beaucoup, c'est la balade des pendus de François Villon. Voilà, j'adore François Villon. Quand j'étais à Paris, c'était le personnage dont je pouvais savoir où il était passé, etc. Et donc François Villon m'aime beaucoup, et la balade des pendus qui s'adresse à nous comme si les gens de son époque étaient là. Je trouve ça formidable, ouais. Ça m'émeut beaucoup, ça.
Puisqu'on parle de personnages historiques, quels sont les personnages célèbres ou de fiction que tu aurais aimé rencontrer ou qui t'accompagnent dans ta vie?
C'est des peintres. Si je fais un condensé, les trois peintres qui ont été déterminants dans ma vie, ça a été De Kooning, Dubuffet et Pollock. Voilà. Donc ça, ils sont extrêmement présents, c'est comme si c'était une famille proche. C'est la famille rapprochée de ma famille, si tu veux.
Et à l'opposé de ça, il y a des gens célèbres, enfin, ou des personnages que tu détestes ou que tu apprécies peu.
L'artiste opportuniste. Voilà, ça j'apprécie pas, oui.
Ouais.
Il y a du monde, hein. Hélas, il y a du monde. Enfin, c'est humain. Il faut être indulgent avec ces gens.
J'allais dire, la liste est longue, on ne peut pas tous les nommer maintenant.
Ouais, voilà, bon, il faut être compréhensif. Les gens font ce qu'ils peuvent dans le monde dans lequel ils sont.
Quel a été ton pire cauchemar d'artiste?
Mon pire cauchemar d'artiste, c'est d'arrêter. J'ai toujours fait le maximum. J'ai eu à un moment donné un atelier qui s'est écroulé. J'ai trouvé le moyen de faire de la sculpture à ce moment-là chez moi. Enfin, je trouve toujours une solution. Mais le moment particulier, c'est un jour très précis où je suis passé à travers les verrières de mon atelier quand même. J'avais une verrière zénitale. Et c'était, je devais avoir un des derniers ateliers à Paris, à Belleville, indépendant, c'est-à-dire qui n'était pas donné par, par une institution. Et donc, et il était très perméable à l'eau. Donc, à un moment donné, j'ai voulu déboucher une canalisation et je suis passé à travers la verrière. Et en même temps, les deux tiers des dessins que j'avais jusque-là, y compris ceux que je faisais quand j'étais jeune, les bandes dessinées, etc., ont été détruits, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon pire souvenir, oui, ça c'est vrai.
Ah oui, ça m'a profondément marqué.
Oui, il y a eu pire. Hein. Il y a un artiste, un ami artiste, André Noirit, ici. Lui, il a eu son atelier dévasté par un incendie. Toute son œuvre antérieure a disparu. Hein. Voilà, il y a donc...
Il y a Bacon qui brûlait volontairement ses œuvres, et puis il y a ceux qui subissent les dégâts naturels.
Ça fait des pendus, hein. Gorky, qui faisait, qui était un expressionniste abstrait américain, il s'est pendu après un incendie dans son atelier. Enfin, ça a été déterminant, oui.
On va passer sur une.
Non, il faut finir plus gai là.
Oui, c'est ce que j'ai reçu une anecdote.
Voilà,
une
finissons plus gai.
plus drôle. Quel est à l'opposé, quel est ton meilleur souvenir d'artiste?
Alors, mon meilleur souvenir d'artiste, c'est le jour où j'ai utilisé une pipette et où je l'ai vu réagir comme d'une manière fulgurante. Tu vois, ça peut te suggérer, toi qui adore la course automobile, c'est que là, j'ai eu l'impression de passer à la vitesse turbo, quoi. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que là, j'avais une vitesse d'exécution incroyable qui s'offrait à moi. Ouais.
Juste une dernière question. Je me suis laissé dire que tu participais à une expo dans une église, puisque tu parlais des églises en début d'introduction, cet été. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ?
De l'exposition ?
Oui.
C'est une exposition collective, organisée par un original, qui n'est pas loin de moi, et qui est une bonne initiative avec des artistes marginaux et de ce fait là qui est certainement risque de produire beaucoup de surprises et d'intérêts, quoi. Voilà.
Donc pour situer le lieu, c'est à Gourdon.
C'est dans l'église de Gourdon centrale, oui. L'église des Cordeliers, qui est très grande et qui est un beau lieu d'exposition. Qui est un beau lieu d'exposition, oui.
Eh bien, notre entretien se termine sur cette note d'avenir.
Ouais, merci
à Luc Rigal de nous avoir accompagnés cette matinée.
Jean-Luc, merci.
Vous êtes toujours sur CFM Radio. Retrouvons-nous dans un mois pour une prochaine émission.
CFM Radio, 40 ans de liberté. 40 ans d'expression.